société moderne, la société moderne, quel est son slogan, quel est son credo? Chacun pour soi, occupe-toi de toi-même, débrouille-toi. Si ça ne fait pas mal à personne, vas-y. Est-ce que c'est la survie du plus fort? Ne te laisse pas faire. Dans l'Église, nous ne voulons surtout pas nous conformer à la société moderne, mais nous voulons être transformés. Et pour cela, je vous invite à prendre une Bible et à chercher dans les Bibles blanches la page 740. 740, nous sommes dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. La page 740, Romains 12. Et je vais commencer en relisant les versets 1 et 2 que nous avons regardés il y a deux semaines. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et puis le verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Et du zèle et non pas de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord avec les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, et sois vainqueur du mal par le bien. Ainsi se termine notre lecture de la parole de Dieu. Dieu a été très généreux, donc offrons notre corps et soyons transformés. Ça devrait vous rappeler de ce que nous avons discuté il y a deux semaines. Je n'ai pas honte de me répéter. La pédagogie, c'est la répétition. La répétition, c'est la pédagogie. Mais Dieu a été très généreux, donc offrons notre corps et soyons transformés. Parce que tout ce que nous allons lire à partir du chapitre 12, c'est basé sur la grâce de Dieu, expliquée dans les chapitres 1 à 11. Et nous voyons que Dieu a été très généreux. Dieu nous a élus par sa grâce. Il a envoyé son Fils comme un sacrifice. Dieu nous a élus par sa grâce et maintenant il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Nous sommes les enfants adoptifs de Dieu. Dieu nous a donné son esprit et Dieu nous sauve de A à Z, du début jusqu'à la fin. Et tout cela pour des rebelles qui lui ont tourné le dos. Et dans les versets, à partir du verset 9 que je viens de lire, nous avons une longue liste d'impératifs. Une longue liste d'impératifs qui serait écrasant, qui nous laisserait écraser comme une voiture sur le point d'être en panne d'essence, nous n'aurions ni la puissance, ni la motivation pour aller de l'avant, mais la grâce de Dieu change tout. Parce que aimé par Dieu, nous voulons aimer en retour. Sauvé par Dieu, sauvé du jugement de Dieu, nous voulons glorifier Dieu. Libéré du péché, nous cherchons la volonté de Dieu. Et donc, alors que nous parcourons une longue liste d'exhortations aujourd'hui, les compassions de Dieu doivent continuer à résonner dans nos esprits. La mélodie de la grâce de Dieu doit continuer comme une musique de fond qui alimente nos affections, nos désirs, nos actions, nos décisions. Au début de la semaine, les images de Mamoudou Gassama étaient partout, n'est-ce pas? C'est lui, le jeune malien, le jeune homme du Mali, sans papier, qui a sauvé un enfant suspendu à un balcon. Alors, je vais rien dire sur la politique de l'immigration, mais réfléchissons à l'autre des événements. D'abord, Mamadou a risqué sa vie. Ensuite, le président de la République lui fait grâce, lui donne une carte de séjour, prochainement la nationalité française. Et donc, la vie de Mamoudou est transformée. Il a un nouveau statut et il va vivre en cohérence avec ce nouveau statut. Il pourra chercher un travail, s'inscrire pour un logement social. Il pourra voter, il pourra soutenir les Bleus pendant la Coupe du Monde et chanter la Marseillaise avec fierté. Il a risqué sa vie, il est gracié et sa vie est transformée. Mais dans Romains 12, l'ordre est tout autre, Dieu nous a fait grâce. Nous n'avons rien mérité, mais Dieu a fait de nous, par sa grâce, des citoyens et des citoyennes de son royaume. Et en vertu de cette grâce gratuite, en vue des compassions de Dieu, nous sommes appelés à donner notre vie comme un sacrifice vivant et à vivre une vie transformée, cohérente avec le nouveau statut, notre nouvelle identité. Dieu a été très généreux, donc offrons notre corps et soyons transformés. Et les versets de Romains 12 nous décrivent avec des suggestions très concrètes comment offrir notre vie, à comment être transformé, c'est-à-dire comment être comme des cheminots bien distinctifs, bien réparables, et non pas comme des soldats camouflés. Donc, plongeons-nous dans ces versets, entre le verset 9 et le verset 21. Il me semble qu'on peut diviser ces versets dans deux parties. Ça commence avec nos relations à l'Église, les relations entre chrétiens, et puis nos relations au-delà de l'Église, avec les autres. Deux titres, soyons transformés vers l'amour authentique dans l'Église et soyons transformés vers la bonté et la paix au-delà de l'Église. Et nous allons commencer avec ce premier titre, soyons transformés vers l'amour authentique dans l'Église. Et le verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Paul nous exhorte de vivre un amour sincère, un amour vrai, un amour authentique. Et ça sert comme titre pour la suite. Alors, c'est la première fois que Paul parle de notre amour pour les autres. Auparavant, il a parlé tout simplement de l'amour de Dieu. Et combien l'amour de Dieu est sans hypocrisie et authentique. Dieu dit qu'il nous aime. Et il a manifesté son amour en payant le prix le plus cher. Le Romains 5, verset 8, Dieu a prouvé son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. et nous, comment manifester un amour authentique pour nos frères et nos sœurs à l'Église. D'abord, il y a la moralité de l'amour. Verset 9, « Ayez la malle en horreur, attachez-vous au bien. » Il y a une moralité objective parce qu'il y a un Dieu qui règne et dans nos relations les uns avec les autres, nous sommes exhortés à détester le mal. Nous sommes exhortés à embrasser le bien. Au lieu d'être curieux du mal ou d'accepter de vivre avec le mal, au pire d'être complice, nous devons haïr le mal. Notre culture dit... si ça ne fait pas de mal à d'autres, vas-y. Et les compassions de Dieu disent, Dieu nous a sauvés du péché, pourquoi y traîner? Nous devons dire les uns aux autres, ayons le mal en horreur, attachons-nous au bien. Il y a aussi l'humilité de l'amour. Par amour fraternel, le verset dit, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. C'est l'amour qui apprécie l'autre, qui reconnaît ce que l'autre fait. Notre culture dit, c'est la survie du plus fort. Les compassions de Dieu disent, vous n'avez rien fait pour mériter la bonté de Dieu, et donc soyons humbles, soyons transformés pour être compétitifs, pour laisser les autres passer devant, pour remercier les autres et les élever. Aussi, il y a le zèle de l'amour. Et du zèle et non de la paresse, le verset 11, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. C'est l'amour qui se donne pour les autres, même quand ça coûte cher, au lieu d'attendre à ce que les autres nous servent. Notre culture dit, occupe-toi de toi-même. Les compassions de Dieu disent, Christ est venu pour nous servir. Donc, offrons notre corps comme un sacrifice vivant pour servir les autres. Est-ce qu'on devrait avoir une liste d'attente pour la vaisselle après les repas d'église? Et ce qui nous motive encore plus, c'est qu'en servant les autres, en fait, c'est le Seigneur que nous sommes en train de servir. C'est le Seigneur Jésus-Christ à lui-même. Et puis, il y a la patience de l'amour. Le verset 12, « Réjouissez-vous dans l'espérance » et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière, car nous n'aurons pas notre meilleure vie ici-bas. Nous attendons la nouvelle création de Dieu, tout en vivant dans un monde de détresse ici-bas. Mais notre culture dit, je le veux maintenant, je veux être libre de toute difficulté aujourd'hui, mais les compassions de Dieu nous disent, Dieu nous donne déjà tellement plus que nous méritons et nous attendons l'héritage céleste qu'il nous prépare. Et donc ce verset, le verset 12, nous exhorte de façon communautaire de regarder vers l'avenir, vers notre espérance, de vivre avec Dieu et d'être patient ensemble dans la détresse, de persévérer dans la prière. Et quand si nous ne voyons pas de réponse de Dieu, au lieu de lever les poings en colère contre Dieu, de lever les mains dans la prière. Il y a aussi l'hospitalité de l'amour. Le verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. » Parce que les chrétiens forment un seul corps, une nouvelle famille, nous sommes appelés à nous occuper les uns des autres, à pourvoir aux besoins les uns des autres. Ce qui était coûteux au premier siècle et ce qui peut être coûteux aujourd'hui aussi. Et en fait, il y a un petit jeu de mots, le verset 13 et verset 14. Paul nous exhorte à poursuivre l'hospitalité comme ceux qui nous poursuivent pour nous persécuter, dans le verset 14. Comme quelqu'un qui cherche à faire du mal aux chrétiens, Paul nous exhorte à chercher à faire du bien, à pourvoir aux besoins des autres, vers ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont seuls ou isolé. Notre culture dit, vous avez mérité tout ce que vous avez, profitez-en. Les compassions de Dieu disent, tout ce que nous avons, c'est un cadeau de Dieu. Alors comment ne pas le partager? Soyons transformés pour montrer l'hospitalité de l'amour. Alors je veux vous montrer à quel point je ne suis pas à la hauteur de ces versets. Dimanche dernier, j'étais parti avec quelques autres personnes de l'église pour assister à un séminaire à Genève. Et au repas, le dimanche soir, nous sommes assis à table avec une jeune femme qui était là toute seule. Alors nous avons commencé à discuter avec elle, à faire sa connaissance, et effectivement, elle était la seule de son église présente pour le séminaire. Bon, on a discuté, et puis c'était l'heure pour la première séance, donc nous sommes partis. Nous sommes partis à la grande salle pour la première séance plénière, et j'ai vu la même jeune femme assise toute seule dans un rond de chaises. Et franchement, j'avais la flemme de m'asseoir avec elle ou de lui dire de venir s'asseoir avec nous. Je voulais profiter du séminaire avec mes amis, sans penser à d'autres personnes. Et donc j'ai essayé discrètement de passer derrière elle. Mais quelle honte! Ce n'était pas l'amour authentique, ce n'était pas le zèle de l'amour ou l'hospitalité de l'amour. Et heureusement, quelqu'un de notre groupe est allé vers elle pour lui dire de venir s'asseoir avec nous. J'ai confessé mon péché à Dieu, je fais confiance à Christ pour le pardon et je prie que Dieu me transforme pour la prochaine fois. Dieu a été très généreux, donc offrons notre corps et soyons transformés vers l'amour authentique dans l'Église. Une application assez générale pour nous tous. Ce sont des exhortations pour notre vie d'église, n'est-ce pas? Et des exhortations qui sont très difficiles à vivre si nous arrivons pile à l'heure pour le culte et si nous partons quelques instants après la fin. Des exhortations qui sont très difficiles à vivre si nous préférons rester à la maison pour écouter le message de notre prédicateur favori sur Internet. Mais, dans un groupe de maison, par exemple, là, vous pouvez commencer à faire connaissance de quelques personnes. C'est là où vous allez découvrir les besoins des autres afin d'y pourvoir. C'est là où vous allez découvrir les détresses des autres afin de prier. C'est là où vous allez découvrir les luttes des autres afin de les exhorter à s'attacher au bien. En tout cas, ça devrait être le cas. Si ce n'est pas encore le cas, ça vaut la peine de réfléchir. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre cela dans votre groupe de maison? Il y a des églises qui disent que si vous ne faites pas encore partie d'un groupe de maison, vous ne faites pas encore partie pleinement de l'église. Alors, nous n'avons pas encore exprimé une telle politique. Mais pouvez-vous participer à un groupe de maison? Et si le jeudi soir ne vous convient pas, et nous avons des empêchements différents. Il y a les petits lapins. Il y a la pause du midi à la Défense. Il y a le brunch des femmes. Il y a le groupe des collégiens et des lycéens. Beaucoup d'occasions pour nous retrouver avec d'autres afin de vivre cet amour authentique. Ou pouvons-nous fixer rendez-vous pour déjeuner avec un chrétien près des lieux de notre travail? Ou téléphoner à un frère ou une sœur pendant la semaine. Et admettons aussi que les repas d'église, premier dimanche et troisième dimanche du mois, et le café et les gâteaux, ne sont pas là pour subvenir à nos addictions de sucre et de caféine. Mais le café et le gâteau, les repas d'église, sont là pour accueillir les nouveaux qui viennent, et pour nous donner l'occasion de vivre cet amour authentique les uns avec les autres. Alors, avant de poursuivre, je veux bien vous donner quelques instants pour réfléchir. Y a-t-il une exhortation que vous voulez souligner, que vous voulez noter, pour la semaine qui arrive? Y a-t-il une façon de mettre en pratique concrètement l'amour authentique suite aux compassions de Dieu? Est-ce que vous pouvez envoyer un texto à quelqu'un pour l'exhorter à s'attacher au bien? Est-ce que vous pouvez exprimer votre reconnaissance à quelqu'un qui sert dans l'Église? Est-ce que vous pouvez prendre courage pour exprimer votre détresse à quelqu'un? Est-ce que vous pouvez planifier d'inviter quelqu'un chez vous dimanche prochain au lieu de laisser cette personne seule ou isolée? Je vous laisse quelques instants juste pour réfléchir à comment vous pouvez peut-être mettre en pratique ces choses. Donne-nous, s'il te plaît, notre Père Céleste, de vivre ici et pendant la semaine cet amour authentique en vue de tes compassions pour nous. Amen. Amen. Deuxièmement, soyons transformés vers la bonté et la paix au-delà de l'Église. Et c'est ainsi que je résume les versets 14 à 21. Et nous parlons des relations du chrétien avec des personnes au-delà de l'Église. Au travail, au club de sport, au collège, au lycée, à la maison, peut-être avec des membres de votre famille. Et comment vivre une vie transformée dans ces situations? En cherchant la bonté et la paix. Au verset 14 à 17, au lieu de s'attaquer à ceux qui font du mal, nous sommes exhortés à bénir, à faire du bien. Le verset 18 nous exhorte à faire tout ce que nous pouvons pour chercher la paix. Et le verset 19 nous explique comment c'est possible. C'est possible parce que c'est Dieu le juge. C'est Dieu qui va venger. La vengeance appartient à Dieu, non pas à moi. C'est Dieu qui va donner à chacun ce qu'il mérite. Et Dieu va le faire avec une connaissance parfaite, une justice parfaite, ce que je n'ai pas. Donc je peux faire confiance à Dieu et agir pour la paix et le bien des autres. Et ne comprenons pas mal la fin du verset 20. Verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Alors, on pourrait prendre cette expression « amasser des charbons sur la tête » comme une façon indirecte de nous venger. Mais une telle idée serait à l'encontre de ces versets. Non, non, le chrétien cherche le bien de son ennemi par amour, amour de Dieu, amour pour son prochain. Alors, il est possible que cette expression évoque la pénitence, que l'ennemi reconnaît sa faute et qu'il se repentit. Sinon, il est possible que Paul reconnaisse que le jugement de Dieu soit plus sévère, que la culpabilité soit plus grande suite aux belles actions d'un chrétien, si celle-ci n'amène pas la personne à la repentance. Et ce sont des exhortations difficiles dans notre société moderne, au travail, où c'est la loi du plus fort. Mais c'est selon l'exemple de Jésus, n'est-ce pas? Jésus qui a lavé les pieds de Judas. Jésus qui insultait, ne rendait pas l'insulte avec l'insulte, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais qui s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, verset 23. Et bien sûr, c'est selon les compassions que Dieu nous a montrées. Alors, est-ce que nous pouvons y penser la prochaine fois qu'un collègue reçoit la reconnaissance pour notre travail? Est-ce que nous pouvons y penser la prochaine fois qu'un camarade de classe répand des ragots sur nous? Pouvons-nous y penser la prochaine fois que quelqu'un insulte les chrétiens dans les médias? Pouvons-nous y penser la prochaine fois qu'un membre de notre famille nous blesse? De plus, verset 15, au lieu d'être jaloux des bénédictions que d'autres reçoivent, nous sommes exhortés à nous réjouir avec eux. Et au lieu de rester loin de ceux qui souffrent, nous sommes exhortés de pleurer avec eux. Et quel défi, Quel défi! Une collègue reçoit la promotion que vous vouliez, vous exhortez de vous réjouir avec elle. Des amis ont encore un enfant, alors vous êtes exhorté de vous réjouir avec eux, bien que vous essayez d'avoir un enfant depuis des années. Et franchement, ce serait plus facile de rester loin de ceux qui souffrent au lieu de nous approcher d'eux dans la souffrance. La paix et la bonté au-delà de l'Église. Comment être à la hauteur? En quelque sorte, nous ne pouvons pas. Mais comme un membre de mon église de maison a dit cette semaine, ces versets ne sont pas là pour évoquer la culpabilité, mais pour nous faire avancer, pour faire avancer la transformation dans nos vies. Jésus est mort pour notre culpabilité. Mais allons de l'avant, soyons transformés vers la bonté et la paix au-delà de l'Église. Souvenons-nous de la paix que nous avons avec Dieu. Romains 5, verset 1. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons de la paix avec Dieu. Donc, nous pouvons chercher la paix avec d'autres. Souvenons-nous de la bonté de Dieu. Romains 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, nous pouvons agir avec bonté envers nos ennemis. Dieu a été très généreux. Donc, offrons notre corps comme sacrifice vivant et soyons transformés vers l'amour authentique dans l'Église et vers la paix et la bonté au-delà de l'Église. Et si nous commençons à mettre en pratique ces exhortations, ben c'est clair que nous sommes comme des cheminots faciles à réparer, non pas comme des soldats camouflés. Nous serons de plus en plus une Église façonné par la grâce de Dieu, qui brille avec la grâce de Dieu. Alors je vais prier pour finir. Notre bon Père Céleste, nous te demandons à nouveau de nous montrer plus de tes compassions pour nous envoyer à offrir notre corps comme sacrifice vivant et à vivre des vies transformées. Nous demandons que tu nous aides à discerner ta volonté, surtout dans nos relations ici à l'Église et avec ceux qui ne te connaissent pas, avec ceux qui même nous font du mal, et que nous puissions vivre cet amour authentique et s'il te plaît chercher le bien et la paix autour de nous. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.